Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 7 juin, Jean-Luc Mélenchon a-t-il franchi la ligne rouge? Il a déclenché en tout cas une belle tempête pour avoir expliqué que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, il y aura un grave accident ou un meurtre. C'est écrit d'avance, a-t-il dit, après avoir cité les exemples de Mohamed Merah en 2012 ou encore des Champs-Élysées en 2017. Les familles de victimes s'indignent, les politiques dénoncent des thèses complotistes. Nous serons en ligne avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Un enfant pour toutes les femmes, le texte sur la procréation médicalement assistée revient en troisième lecture à l'Assemblée. Malgré plus d'un millier d'amendements, il sera adopté durant l'été. Dans RTL Midi aussi, 2400 élèves confinés en ce moment au Teil en Ardèche. Une directrice d'école a reçu un message de la part d'un homme qui menace de s'en prendre à des écoliers. Les voitures hybrides rechargeables, pas si écolo que ça. Si vous oubliez de les recharger, elles sont même carrément plus polluantes que les modèles à essence. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
C'est toujours électrique dans l'est du pays.
Exactement, entre le Grand Est, l'Auvergne et les Alpes, ça tourne à l'orage cet après-midi. Des orages localement fort attendu sur le sud des Alpes accompagné de grêle. Seul le littoral de la Méditerranée restera à l'écart. Et surtout l'ouest du pays, c'est du beau temps. Alors certes, un petit peu plus nuageux sur la Bretagne, mais ça reste agréable, même si une petite averse est possible. Ça reste très localisé. Tout ça sous des températures encore en hausse. 18 à Cherbourg, 20 à Nancy, 22 à Lyon, 24 à Lille, 26 à Paris, 27 à Bordeaux et 30 à Marseille.
La question du jour sur RTL.fr. Jean-Luc Mélenchon a-t-il tenu des propos complotistes? Eh bien, vous êtes 79% à nous dire oui. Il y a 14% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Effectivement, ce sera notre question principale. Autre question, Éric Zemmour doit-il être candidat à l'élection présidentielle de 2022? Peut-être qu'il faut passer à l'action, a-t-il dit hier dans une vidéo. Invité des auditeurs ont la parole à 13h45. Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive France. Et cette enquête sur l'allongement de tous les âges de la vie. Hormis l'enfance, les Français estiment que toutes les périodes de la vie sont plus longues aujourd'hui que pour la génération de leurs parents. Vous pourrez nous donner votre avis. D'autres sujets, il y en a beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, c'est la PMA. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de la PMA?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, la stupéfiante créativité des dealers. Alors on sait que certains offrent des bons de réduction pour fidéliser la clientèle, mais comment entraver le travail de la police? Eh bien, à Cavaillon, dans le Vaucluse, dans une cité, des dealers ont carrément coulé 4 dos d'âne en béton pour ralentir les policiers, Hugo Hamelin.
Oui, dans une cité enclavée, une opération de maçonnerie suspecte qui s'est déroulée de nuit la semaine dernière. Ici, le trafic est visible avec plusieurs guetteurs postés aux entrées des immeubles. Alors, ces dos d'âne, 6 boudins de béton armé, c'est peut-être pas seulement pour se protéger de la police, comme l'explique Claude Simonetti, délégué USGP Police pour le département du Vaucluse.
Vous avez employé le bon mot, maçonnerie, effectivement, puisque c'était de beaux dos d'âne qui étaient ferraillés, etc. Donc, oui, c'est tout nouveau. Après, le but, j'imagine, est de ralentir peut-être la progression des véhicules police qui interviennent sur le secteur pour tout ce qui est produits stupéfiants. Ou éventuellement, on sait qu'il y a eu récemment des règlements de compte sur le secteur, donc peut-être aussi pour éviter peut-être des représailles ou je sais pas.
Les mystérieux dos d'âne ont été rasés, enlevés sous bonne escorte par les services de la ville au bout de 2-3 jours. Un soulagement pour les habitants, pas vraiment choqués par les méthodes des trafiquants, mais qui craignaient plutôt pour la carrosserie de leur voiture.
Imagine. Merci Hugo Hamelin. C'est la grande réforme sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elle joue les prolongations au Parlement. Un an et demi que ça dure. La loi de bioéthique qui instaure la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes passe pour la troisième fois à l'Assemblée nationale. Plusieurs milliers d'amendements ont été déposés, mais quoi qu'il arrive, elle sera adoptée durant l'été. Nicolas Saget, le porte-parole de l'association Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens.
On est ravis que ça arrive enfin, même si à la fin du quinquennat. En revanche, on a peur que la logistique derrière ne suive pas. Moi, je ne crois pas trop à la promesse d'Olivier Véran qui espère un bébé d'un couple de femmes ou d'une femme seule avant la fin du quinquennat. Parce que derrière, certes, la loi va passer, mais il y a les médecins, il y a les centres de conservation de d'ovocytes et de gamètes qui doivent aussi accueillir les nouvelles patientes. Il faut le temps que de nouveaux donneurs de sperme arrivent. Il y a déjà un délai d'attente pour les couples hétérosexuels de presque plus d'une année. Il y a tout ça et c'est incompressible. Donc nous, on est optimistes, mais le bébé avant la fin du quinquennat, on n'y croit pas trop.
Il faudra être patient, dit Nicolas Sagé avec Odile Pouget. La manif pour tous appelle à manifester ce soir et demain près de l'Assemblée nationale pour, je cite, « défendre les qualités des droits pour tous les enfants, à savoir celui d'avoir un père et une mère ». Fin de citation. Jean-Luc Mélenchon serait-il devenu un adepte des thèses complotistes ? Interrogé hier sur Radio France, il a déclenché plus qu'une polémique en expliquant que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, il y aura un événement qui permettra de montrer du doigt les musulmans. Avant d'examiner le fond de ces propos, réécoutons le leader de la France insoumise.
Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça, c'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler avant, après. Donc tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile, voilà.
Alors aujourd'hui, la condamnation politique est unanime, mais chez la France insoumise, on fait corps autour du chef, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, avec cette explication, ces propos sont montés en épingle et détournés de leur sens afin de faire passer Jean-Luc Mélenchon pour un complotiste, comme le disait ce matin la députée Clémentine Autain sur CNews.
Ce qu'il a dit, c'est que les assassins choisissent leur moment. C'est vrai ou c'est faux ? Ils veulent que ça retentisse et ils cherchent à diviser le pays et souvent ils y arrivent. Et souvent ils y arrivent, d'accord ? Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste. Ce sont les assassins qu'il vise dans ce moment-là.
Jean-Luc Mélenchon aurait voulu mettre en garde contre les tentatives de manipulation, argument qu'il développait lui-même hier soir sur Facebook et que ses amis reprennent sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette unanimité, n'y a-t-il pas un trouble ? À part Clémentine Autain, aucun insoumis n'ose affronter la contradiction sur une radio ou une télé. Et sur les réseaux, certains se contentent de dénoncer un prétendu mauvais buzz, tandis que d'autres rappellent quand même que leur chef ne nie pas l'existence des attentats terroristes. Et aucun des insoumis que j'ai sollicité ce matin ne m'a répondu. Les silences, parfois, en disent long.
Marie-Bénédicte Allaire, et chez les victimes du terrorisme, on n'a pas de mots assez durs pour dénoncer les propos de Jean-Luc Mélenchon. Pour Latifa et Benziaten, dont le fils avait été tué par Mohamed Merah, c'est inadmissible. Elle demande un peu de respect. L'avocat de la famille Sandler, qui a perdu deux enfants et leur père à l'école aux Aratora, menace de saisir la justice. Il ne retire pas ses propos. Pour le compagnon de Xavier Jugelet, ce policier tué sur les Champs-Élysées, ce n'est pas digne d'un homme d'État. On fait une pause et on en reparle dans un instant avec Pascal Pro.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Jean-Luc Mélenchon a-t-il tenu des propos complotistes ? C'est la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs, Pascal Pro.
La réponse est oui, sans ambiguïté. Il établit un lien de causalité entre des événements dramatiques et le fait que le deuxième tour de la présidentielle se joue. Vous verrez, a-t-il dit, que dans la dernière semaine présidentielle, nous aurons un grave incident. J'observe d'ailleurs que pour Jean-Luc Mélenchon, l'assassinat de 7 personnes, dont 3 enfants juifs, est simplement un grave incident. Alors il imagine effectivement que les tueries du 22 mars 2012 dans les villes de Toulouse et de Montauban n'étaient pas dues à la seule volonté meurtrière de Mohamed Merah, mais pourquoi pas à une organisation, à une décision, à un complot, disons le mot, de je ne sais qui au service de je ne sais quoi.
Invité d'RTL Midi, Jean-Luc Moudin, le maire Les Républicains de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Les réactions sont vives ce matin, en particulier du côté des familles des victimes de Mohamed Merah. Et vous, qu'en dites-vous ?
Écoutez, je suis scandalisé, je suis totalement indigné. Je n'en croyais pas ni mes yeux ni mes oreilles quand j'ai appris les propos tenus par M. Mélenchon. Ici, à Toulouse, à Montauban, on a été particulièrement touchés, choqués en 2012, avec des familles endeuillées, des familles de militaires, des familles d'enfants juifs qui allaient à l'école. Donc quand on entend ça, on est véritablement abasourdi. En plus, ça n'a ni queue ni tête.
Mais vous pensez
ça
vraiment...
Ça s'est passé en 2012. Donc s'il y avait eu un complot, bien évidemment, on n'aurait pas attendu 9 ans pour l'identifier.
Oui, c'est ça. Vous pensez qu'il tient délibérément des propos complotistes ?
Écoutez, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit quelqu'un de léger. C'est quelqu'un qui est très construit sur le plan intellectuel. Lorsqu'il prend la peine de donner trois faits meurtriers, 2012, mais aussi Xavier Jugelet en 2017 et également le Papivoise en 2002, il fait une démonstration qui est très pensée et qui fait froid dans le dos. C'est glaçant véritablement ce qu'il dit. C'est une honte. C'est pas digne de quelqu'un qui prétend diriger le pays. Et le pays pays, c'est le pays des droits de l'homme en plus.
Mais alors justement, Clémentine Autain de la France Insoumise explique qu'en fait on a mal compris et qu'il voulait parler de l'instrumentalisation du terrorisme et des faits divers par la droite ou l'extrême droite.
Oui, sauf que les propos de Mme Autain ne correspondent en rien à ceux de Jean-Luc Mélenchon. On le voit bien à travers les mots que vous avez très fidèlement reproduits en me posant la question. Tout ça, c'est pas sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la France insoumise, à travers Mme Autain en l'occurrence, est donc solidaire d'un dérapage. Donc ça veut dire que le dérapage de Mélenchon, c'est pas une sorte de lubie personnelle ou de mensonge personnel. C'est carrément, et là c'est encore plus grave, la position de tout un parti. Donc je suis véritablement scandalisé. Il faut que Jean-Luc Mélenchon retire ses propos. Et puis si Mme Autain, par extraordinaire, avait raison, alors à ce moment-là, il faut que M. Mélenchon tienne de nouveaux propos qui ne soient pas ambigus, mais véritablement, j'y crois pas.
Qu'il retire ses propos, sinon vous menacez de saisir la justice, comme le fait par exemple l'avocat de la famille Sandler?
Moi, je ne me lasse pas. Je ne suis pas famille de victimes.
Oui.
Je n'ai pas un droit, quelque part, que lorsqu'on est victime, on peut avoir sur le plan juridique. Moi, je me place sur le plan politique. Il y a une élection présidentielle dans moins d'un an. Diriger le pays, c'est pas rien. Tenir des propos comme ça en voulant diriger le pays, c'est pas possible. C'est antinomique.
Bien sûr,
c'est scandaleux.
On a quand même le sentiment que le climat politique est de plus en plus tendu et de plus en plus clivant dans notre pays. On le voit ces dernières semaines. Est-ce que ça vous inquiète justement pour l'année qui arrive ?
Oui, je suis inquiet parce qu'on voit bien que le débat politique, et ça c'est pas nouveau, et c'est pas que Mélenchon, le débat politique se dégrade en qualité, en dimension morale dans notre pays. Notre démocratie est malade, on le sait depuis quelques années déjà. Il y a beaucoup de raisons à cela, on va pas se lancer dans un exposé pour expliquer tout ça. Ce qu'il y a, c'est que quand on est élu de la République, quand on est parlementaire, on essaie d'être responsable. On essaie de ne pas aggraver la situation et donc de ne pas apporter sa pierre à cette entreprise de déconstruction de la démocratie qui, malheureusement, a franchi un cap de plus avec ses propos hier soir.
Merci beaucoup Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui demande sur RTL à ce que Jean-Luc Mélenchon retire ses propos. Et merci aussi à Patrick Tégéraud qui a assuré la liaison technique de cette interview. 2400 élèves sont actuellement confinés au Teil en Ardèche. C'est un principe de précaution, mais une directrice d'école a reçu un message menaçant, Raphaël Vantard.
Oui, lorsqu'elle arrive dans son établissement ce matin, elle consulte le répondeur et écoute alors un message très inquiétant. Laissé vers 3h du matin, un homme annonce sous couvert d'anonymat qu'il va s'en prendre à coups de machette à des écoliers. Immédiatement, les gendarmes déboulent dans l'école en question pour tenter d'identifier ce coup de téléphone. La préfecture de l'Ardèche décide le confinement, vous l'avez dit, par précaution de tous les élèves de la ville. 2400 écoliers, lycéens et collégiens restent ce midi dans leur établissement, sauf s'ils peuvent être accompagnés de leurs parents pour regagner leur domicile. Aucune récréation possible, aucun élève dans les cours des établissements. Les enquêteurs n'excluent pas, alors je vous parle, un canular, une mauvaise blague de la part d'adolescents, même si pour le moment, d'importants moyens de police sont déployés dans toute la ville du Teil, sous préfecture de l'Ardèche. Une quarantaine de gendarmes, des policiers municipaux sécurisent toutes les sorties des écoles, des collèges et des lycées.
Le principe de précaution, merci Raphaël Vantard. Dans un instant, on se met au volant d'une voiture hybride rechargeable, mais elles sont parfois plus polluantes que les voitures à essence.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Rouler écolo. De plus en plus d'automobilistes passent à l'électrique ou aux véhicules hybrides. Les ventes d'hybrides ont même dépassé celles du diesel au mois de mai. Mais sont-elles vraiment moins polluantes? Pas si sûr, tout au moins pour les hybrides rechargeables, Christophe Bourou.
Alors à première vue, oui, ces véhicules sont plus polluants. Selon une récente étude menée par l'ONG Transport et Environnement, ils sont 2,5 fois plus émetteurs de CO2 en conditions de circulation. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en raison des batteries, ces voitures sont plus lourdes. Or, la plupart des utilisateurs ne les rechargent pas, voire jamais. Ainsi, selon une enquête menée au sein de plusieurs entreprises, 88% des salariés avouent oublier de recharger régulièrement leur voiture. Autrement dit, en raison de leur poids, ces autos polluent plus si elles ne sont pas rechargées. Sinon, elles sont deux à trois fois plus vertueuses qu'une thermique classique. Tout l'enjeu est donc d'éduquer les automobilistes et surtout d'installer davantage de points de recharge. Le gouvernement en avait promis 100 000 d'ici à la fin de l'année. Or, on en est encore loin, moins de 40 000 environ. Et encore, lorsque ces bornes fonctionnent, plus de la moitié sont endommagées et un quart inutilisables.
Voilà, plus de bornes de recharge, c'est ce qu'il nous faut. Merci Christophe Bourreau. Une amende à 220 millions d'euros, c'est ce que l'autorité française de la concurrence vient d'infliger au géant Google. Le moteur de recherche est accusé d'avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne. Après la Grèce, l'Espagne rouvre grand ses portes et ses plages aux touristes vaccinés dans l'espoir de relancer son économie. Si vous avez déjà voyagé ces dernières semaines, vous l'avez constaté, les tests réalisés à l'arrivée de certains vols internationaux et l'augmentation du trafic provoquent des embouteillages et des retards assez exaspérants, Arnaud Touche.
Oui, et cette crainte de saturation est partagée par tous les aéroports en Europe, comme le détaille Olivier Jankovec, directeur du Conseil international des aéroports européens.
Les compagnies aériennes vont concentrer beaucoup leurs vols sur des périodes de temps réduites. Et ces périodes de pic vont être au moins équivalentes, voire supérieures à ce qu'on a connu l'été dernier, voire même en 2019. Si à tout cela vous ajoutez les contrôles sanitaires multiples sur différents documents, il y a potentiellement la recette pour effectivement avoir une situation chaotique en aéroport durant cet été.
Augustin de Romanet, le PDG des aéroports de Paris, avait déjà alerté le gouvernement le mois dernier et décrivait le quotidien des passagers à l'arrivée à Roissy.
Premier contrôle de police avec les passeports, puis test PCR, deuxième passage devant la police. Donc aujourd'hui, ce qui est en haut de ma pile de préoccupation, c'est la discussion avec le ministère de l'Intérieur pour éviter que cet été ne soit une apocalypse de temps d'attente pour les passagers.
Et pour l'éviter, dès mercredi, les contrôles sanitaires devraient être mieux organisés, en faisant notamment la distinction entre les passagers venant de l'international et ceux qui voyagent dans l'espace Schengen.
Les précisions d'Arnaud Touche.
Roland-Garros 2021,
c'est sur RTL.
À Roland-Garros, aujourd'hui, la relève contre les tauliers. Deux jeunes loups italiens de 19 ans rencontrent en huitième de finale aujourd'hui les deux trentenaires les plus impressionnants du circuit, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et ils ont faim, ces petits Italiens, Isabelle Langer.
Ah oui, ils sont surtout talentueux et pleins d'avenir. Le tennis français pourrait s'inspirer de leur parcours. Lorenzo Musetti comme Yannick Sinner ont grandi dans une structure privée, non loin de leur domicile familial. Surtout, ils sont suivis depuis qu'ils ont 11 ou 13 ans par le même entraîneur, Tartarini pour Musetti, Piatti pour Sinner. Piatti que nous connaissons bien en France puisque c'est avec lui que Richard Gasquet a réussi les plus belles années de sa carrière en atteignant notamment la 8e place mondiale. Aujourd'hui, si la tâche s'annonce ardue pour Musetti, 76e au classement contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic, Yannick Sinner qui pointe déjà au 18e rang mondial, a lui une carte à jouer contre le seigneur de la porte d'Auteuil. Il a notamment une revanche à prendre sur Nadal qui l'avait battu ici même l'an passé en quart de finale après un match intense terminé dans les frimas de la nuit. On s'en souvient bien parce que je crois qu'on était parti de Roland-Garros, il devait être 3h du matin.
Et ça, ça ne s'oublie pas, Isabelle Langer. Merci, à tout à l'heure.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons aujourd'hui dans le Lot à Montgesti, à 25 km de Cahors. Dans ce village de 334 habitants, un café-resto-épicerie qui fait aussi un peu bureau de poste a ouvert il y a 9 jours, Patrick Hisson.
Oui, et depuis son ouverture, les habitants du village ont déjà pris leurs habitudes, comme Marion, venue faire une petite course.
Pain et saucisson. Ah, après l'épicerie est garnie. Hein. Ah ben oui, c'est pratique.
Ou Didier, un lotois d'adoption.
Je viens prendre mon café. Le matin, il y a toujours un peu les habitués. Un peu le retour de la vie d'avant, et on espère même que ça sera un retour d'une autre vie.
Ici, tout le monde s'est mobilisé autour du projet porté par l'association 1000 Cafés, à commencer par le maire Jean-Noël Galtier qui avait auparavant sondé les familles de Montgesti.
On a eu 100 réponses où les gens souhaitaient un petit commerce. Donc ça nous a vraiment boosté. C'est l'âme d'un village. Moi, j'ai connu le village sans commerce et je le vois avec un petit commerce. C'est incomparable.
Dans l'épicerie et à la terrasse du restaurant, les produits du terroir sont à l'honneur. Yannick Quirin est le gérant du commerce.
Ici, c'est le canard. Donc il y a beaucoup de produits de canard. J'ai du veau d'une ferme locale d'à côté, j'ai le fromage des fermes d'à côté, pareil. Ici, c'est plus les crottins et les cabicou. On a la bière aussi locale de l'herbe qu'à côté, la pisse de bouc, ça s'appelle.
La pisse de bouc, à consommer bien sûr avec modération, reste désormais à transformer l'essai, mais cela devrait être assez simple à Montgesti, où le maire n'est autre que le papa de Fabien Galtier, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby.
Et il est décidément dynamique, hein, le papa de Fabien Galtier, puisque dans ce village aussi, on possède une station-service municipale. Pascal Praud, c'est à vous. Vous entamez le dialogue dans 5 minutes avec les auditeurs.
Et on va parler de Jean-Luc Mélenchon. C'est toujours intéressant de voir comment on gère la crise, que ce soit pour un homme politique, mais aussi parfois en matière économique ou même sportive. Et là, Jean-Luc Mélenchon, il sort les rames. Et autour de lui, on sort également les rames, puisqu'on explique, on essaye d'expliquer qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit. Donc c'est évidemment compliqué.
Voir on garde le silence.
Et moi, ça m'étonne toujours, parce qu'on peut tous dire des bêtises. Quand t'as la parole, un journaliste, un homme politique peut dire des bêtises. Donc il pourrait tout simplement dire, effectivement, bah, ce que j'ai dit ne correspond pas à ce que je pense. Je l'ai effectivement mal formulé, mal dit, etc. Bon. Et c'est pas ça qu'il dit, quoi. Il dit, voilà, je n'ai pas dit ce que vous me reprochez que j'ai dit. Donc c'est ça qui est compliqué, mais on va en parler tout à l'heure. On parlera également des autres sujets. Éric Zemmour doit être candidat à l'élection présidentielle. Et puis à 13h45, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, sera là.
Oui, ça sera passionnant.
Exactement, paraît-il que le temps... Il y a allongement de tous les âges de la vie.
Ça m'intéresse d'entendre ça.
Par exemple, vous avez le sentiment que la vie adulte est plus longue que...
Je n'ai pas vraiment de point de comparaison.
Oui,
j'ai
c'est ça qui est...
J'ai pas été adulte avant. Oui. Non, mais ça va être intéressant.
Mais tout est intéressant. J'espère, en tout cas.
La météo aussi, c'est intéressant.
Ah ben, la météo, elle est intéressante.
Peggy, on sort déjeuner en terrasse.
Ah ben, avec plaisir, vous m'invitez.
Oui.
Parce qu'on a du soleil sur toute la partie ouest du pays. C'est du beau temps avec un ciel, alors soit variable, soit très bien ensoleillé. Alors, sauf sur la Bretagne, c'est un petit peu plus nuageux. J'ai un petit risque d'ondée cet après-midi, mais rien de bien méchant. À l'est, ça tourne à l'orage, encore entre le Grand Est, l'Auvergne et les Alpes. Des orages localement forts avec de la grêle attendue dans le sud des Alpes. Une averse orageuse possible également sur le relief des Pyrénées et de la Corse, mais le littoral méditerranéen reste à l'écart avec encore un beau soleil, peut-être une petite averse qui pourrait déborder sur la Côte d'Azur. Les températures, elles sont en hausse. 30 degrés cet après-midi à Marseille, estivale, vraiment. 29 à Perpignan, 26 à Toulouse, Cognac comme à Paris, 24 à Reims, Nantes et Tours. 21 à Mulhouse, Dijon et Ambérieu et 19 à Brest.
Et demain, encore un peu plus de soleil ?
Il fera beau partout, oui. Alors, sauf sur la façade est, encore le matin, avec un ciel souvent nuageux et des averses, et reprise de l'activité orageuse dans l'après-midi entre la Lorraine, les Alpes et la Corse. Et dans la matinée, c'est vrai que les nuages seront plus nombreux sur les côtes de la Manche. Ça va se dissiper très vite. Ailleurs, du beau temps. Des températures encore en hausse, comprises entre 20 degrés à Cherbourg et 29 à Bordeaux. Il fera même 31 à Perpignan, 27 à Paris et 25 à Lyon.
Merci Peggy. Appelez-nous au 3210, vous prendrez la parole dans 2 minutes.
50 centimes la minute.
Quasiment à la seconde près, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Jean-Luc Mélenchon a-t-il tenu des propos complotistes ? Est-il complotiste ? C'est la question du jour. Bonjour Raphaël, vous êtes professeur de droit à Clermont.
Bonjour Pascal, oui, professeur de droit à Clermont.
Votre sentiment ?
Eh bien, Général de Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. Il y en a certains qui, comme M. Mélenchon, organisent tout à fait consciemment leur naufrage.
Écoutez, nous allons développer cette idée. Le rappel des titres avec Christelle.
L'alerte a été levée au Teil en Ardèche. 2400 élèves, on en parlait dans le journal tout à l'heure, avaient dû être confinés après des menaces reçues par une directrice. Un homme menaçait de s'en prendre aux enfants. Il s'agissait d'un canular. Après la gigantesque panne sur les numéros d'urgence la semaine dernière, l'opérateur Orange s'engage à publier le 11 juin les résultats de son enquête interne. Cette panne aurait coûté la vie à 5 personnes. Une amende à 220 millions d'euros, c'est ce que l'autorité française de la concurrence vient d'infliger au géant Google. Le moteur de recherche est accusé d'avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne. La sanction paraît énorme, mais Google a réalisé plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre, majoritairement grâce à la pub en ligne. Un enfant pour toutes les femmes, le texte sur la procréation médicalement assistée, la PMA, revient en troisième lecture à l'Assemblée nationale. Malgré plus d'1 millier d'amendements, il sera adopté durant l'été.
Les auditeurs.